L'Islande.
Mexico.
Suisse.
Russia.
Ireland.
Angleterre.
China.
Une fois le Canada.
Lithuania.
L'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Sweden.
Quand j'étais plus jeune, je suis allé en Angleterre, en Irlande, en Italie, en Suisse. J'ai fait la frontière espagnole aussi, mais je suis pas allé bien loin. Et là, plus récemment, j'ai fait l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Et alors, quel est celui qui te laisse le plus de souvenirs ?
L'Australie, dans sa partie ouest, principalement. C'est-à-dire que l'Australie, on pourrait dire qu'elle est coupée en deux avec la partie est qui est très civilisée, parfois très touristique, comme la Grande Barrière de Corail, et la partie ouest qui est encore très très sauvage. C'est-à-dire que c'est civilisé, il y a toujours des villes, des villages, mais ils sont parfois espacés de plus de 500 km, donc il y a un grand rien entre les villes et les villages. Parfois les routes ne sont même pas goudronnées, donc on est sur des chemins de terre. Et quand il y a un chemin de terre, parfois on est content. Mais l'Australie est un pays qui est très civilisé, mais qui est très dépaysant sur la côte ouest, malgré tout.
Lorsque nous sommes rencontrés, tu habitais Cambridge. Comment décrirais-tu cette ville ?
Cambridge, c'est le petit village anglais perdu en Nouvelle-Zélande. Perdu, c'est peut-être pas le mot exact parce que c'est juste à côté de Hamilton, qui est quand même la quatrième ville de Nouvelle-Zélande. Mais c'est une petite ville néo-zélandaise qui se prend pour un village anglais en fait, avec son petit marché le dimanche, sa petite rue principale, son town hall, son hôtel de ville. C'est assez joli, c'est assez fleuri, assez coloré, c'est sympathique. On a parfois une météo anglaise d'ailleurs qui vient avec. Après, c'est assez proche de Hamilton, qui est la quatrième ville de Nouvelle-Zélande, je l'ai dit, mais qui est surtout très très industrielle. C'est-à-dire que c'est pas un endroit très très touristique, mais c'est assez actif pour les travailleurs et dans le secteur de l'industrie. Donc c'est pas forcément l'endroit où on passerait. Sinon, peut-être en allant vers Hobbiton, à côté, qui est le village des Hobbits où Peter Jackson a tourné ses 6 films, qui est juste à côté de Cambridge, quelques kilomètres, une vingtaine, je crois.
Alors, tu es venu en Nouvelle-Zélande avec un Working Holiday Visa. Pourquoi avoir choisi la Nouvelle-Zélande ?
À la base, c'est pas la Nouvelle-Zélande que j'ai choisi, c'est l'Australie. Et j'avais la possibilité en Australie de prolonger ce visa d'un an supplémentaire. C'est-à-dire que le visa de base était un an. Et si j'effectuais certains travaux en ferme ou à la campagne, je pouvais avoir un an de plus. Donc, j'ai fait mes 2 ans en Australie. Et ensuite, je me suis dit que vu que j'étais dans cette partie du globe, autant aller faire un tour en Nouvelle-Zélande qui offrait la même possibilité de visa. Et surtout, en plus du travail, ça permet de voyager. C'est-à-dire que c'est un système qui est très simple, qui est réalisé par plein de backpackers, comme on les appelle, les porteurs de sac à dos. C'est on travaille, on économise un peu. On voyage, donc on va aussi loin que notre budget, notre argent le permet. Et quand on arrive à la fin du budget, on se pose dans la ville la plus proche et on travaille à nouveau. Et après quelques semaines, quelques mois, on peut repartir à nouveau en voyage avec le van, le 4x4 ou même la voiture qu'on a achetée ou louée sur place.
Quel type de travail justement on peut trouver ici en Nouvelle-Zélande ?
On peut trouver un peu tout, ça peut aller dans le travail dans la restauration, hôtellerie, c'est assez courant. Ce que j'ai remarqué pour ces travails-là, travailler dans l'hôtellerie ou la restauration, c'est pas forcément considéré comme un boulot à temps plein ou un boulot à part entière. C'est-à-dire que c'est très saisonnier, il y a beaucoup plus d'activités en été qu'en hiver. Et une expérience de base est pas forcément nécessaire puisque ils considèrent ça plutôt comme un petit boulot qu'on fait pendant les études, pendant les voyages ou comme ça pour arrondir les fins de mois plutôt qu'un vrai travail qu'on a comme nous par exemple. On a quelqu'un en France qui est serveur, qui est cuistot à temps plein, c'est son travail, c'est sa vie. Ici c'est un peu différent. Alors pour les cuistots pas tant que ça, puisque si on connaît rien en cuisine c'est plus dur de se mettre derrière les fourneaux, mais pour le service c'est très fréquent qu'on ait des jeunes étudiants ou des voyageurs ou un peu n'importe qui donc travaille dans la restauration. Il est possible également d'être formé pour être barista, donc faire les cafés. C'est assez courant le barista en Nouvelle-Zélande. Après il y a bien sûr travailler dans le bâtiment. Donc pour ça j'ai entendu dire que Christchurch était très très en recherche d'ouvriers du bâtiment. Donc pareil, là encore, pas forcément d'expérience requise. Si c'est juste pour faire manœuvre de chantier, y a pas forcément besoin d'avoir une formation de maçon ou quoi que ce soit. Hein. Mais on peut faire ça, donc souvent par le biais des agences d'intérim. Et enfin, y a des villes comme Auckland ou Hamilton qui sont plus industrielles. Donc on peut faire les travaux d'ouvriers de base, voire d'assistant chef d'équipe, voir si on a suffisamment d'expérience, chef d'équipe, dans le domaine de l'industrie, oui.
Est-ce que ça se prépare quand même, un Working Holiday Visa?
Je dirais que le premier, il se prépare. Les autres, après, on tomberait presque dans une forme de routine, en fait. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait le premier, parce qu'on est paumé au début, faut dire ce qu'il y a, on a beau avoir lu un paquet incroyable de forums, de posts Facebook, le premier réflexe, je me rappelle, que j'ai eu et que beaucoup d'autres gens ont eu quand on arrive dans le pays, c'est de se dire je m'attendais pas à ça. En fait c'est ça, on s'attend jamais à ça. C'est pour le premier. Après pour la suite, par exemple, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il y a quand même beaucoup de similitudes. Je vais pas trop dire ça parce que ça va pas plaire aux Néo-Zélandais ni aux Australiens, mais il y a quand même beaucoup de similitudes dans le fonctionnement des administrations, comment ouvrir un compte en banque, comment s'installer, comment avoir un chez soi, comment réserver une chambre dans un backpacker hostel, comment ça se passe pour chercher du travail, comment ça se passe pour acheter un véhicule, comment ça se passe pour voyager dans le pays, comment je gère mon budget. Comment ça se passe si j'ai un problème avec la voiture aussi? Des choses, quand on est en France, qu'on habite à côté de chez soi, y a pas de voiture, Mais en Nouvelle-Zélande, quand on est à 10 000 km de la famille et des amis, et que la voiture elle tombe en panne et qu'on peut pas forcément continuer le voyage, ou qu'on peut pas forcément aller au travail le lendemain parce que la voiture elle démarre plus, c'est une autre paire de manches en fait. Donc c'est tout un tas de situations qui sont nouvelles, mais auxquelles on s'habitue et au final on tombe dans ce genre de routine, oui. Et après, ça va mieux. Mais c'est vrai que le premier réflexe, c'est je m'attendais pas à ça.
Et alors, ton voyage en Nouvelle-Zélande touche à sa fin. Quelle va être ta prochaine destination?
La France. Non, ça fait 3 ans que je suis parti là. Et j'expliquais juste avant cette histoire de routine qui s'est installée, et il y a ce côté aussi de fatigue, parce que on a beau prendre un appartement, on a beau avoir sa voiture, son travail, aller au travail tous les matins, c'est difficile de se sentir chez soi, surtout quand on bouge on reste tous les 3-4 mois. Ce qui peut paraître déjà long. Parfois on va rester 6 mois, 1 an dans une ville. Mais même quand on doit encore bouger au bout de ces quelques mois, ou au bout de ces 1 an, parce que c'est souvent le maximum 1 an qu'on peut faire, il faut tout reprendre à zéro à chaque fois. Et parfois on repart avec un budget qui est à zéro, on repart avec des moyens qui sont à zéro. Et à tout reprendre, c'est un éternel commencement. Et ça fatigue à force, ça m'a usé un peu, on va dire, même si j'ai beaucoup apprécié. Et là, je pense qu'il est temps de se poser et d'arrêter cet éternel recommencement.